on va défendre contre Courtrai à la maison. Un samedi soir, ouais, les gars, à 20h45.
Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver pour une nouvelle émission. A new flavoring, comme on dit en néerlandais. C'est un vrai plaisir. Pourquoi est-ce que je parle en néerlandais? Eh bien, tout simplement parce que notre invité aujourd'hui, eh bien, il est tout simplement bilingue. Alors, on va le présenter dans quelques instants, mais d'abord, on salue évidemment mon Xavier. Comment ça va?
Ça va pas mal, toi, ça fait aujourd'hui.
Ça va, écoute, un peu fatigué, tu l'entends à ma voix, un petit peu éraillé, mais ça va aller, normalement on enchaîne, il y a la semaine internationale qui arrive, on va pouvoir prendre un petit peu de repos, et puis Thomas n'est pas là, il est un petit peu malade, vous l'excuserez de notre part, voilà, et donc je le disais, pour le remplacer, on va avoir un trio aujourd'hui, Alex Mestag, Mister Coolcast, comment ça va?
Oh là là, quelle introduction, ouais. Moi ça va et toi?
C'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir de t'accueillir.
Depuis qu'on dit qu'on allait faire un truc ensemble, ouais. Enfin.
Bah ouais, en plus, c'est pour une fois, il y a un vrai copain qui est enfin dans l'émission. Ah, on est un peu hypocrite, hein, on fait semblant, mais voilà. Non, je plaisante évidemment. Ça fait plaisir en tout cas que tu sois là. Et effectivement, t'as toute une série de casquettes. Tu es le cofondateur d'un média qui réussit très bien en Flandre, qui s'appelle Coolcast. Tu commences à devenir véritablement une personnalité, une nouvelle personnalité dans le paysage néerlandophone. Et les gens ne le savent pas, mais tu es aussi francophone, tu parles très bien français. Et donc, c'est aussi intéressant de pouvoir t'avoir dans cette émission. À part ça, et c'est ce qui vous rapproche tous les deux messieurs, t'es quand même commentateur pour la E-Pro League. On a un expert de la E-Pro League.
Ouais, il a pris ma place cette année.
En la personne de Xavier. Alors, est-ce que tu peux, pour moi qui suis totalement un novice, je n'y connais absolument rien, m'expliquer c'est quoi la E-Pro League et comment ça fonctionne?
Ben, c'est le championnat belge de tout ce qui est, on va dire, pour simplifier le truc, FIFA, la compétition FIFA, hein, FC.
Voilà.
Mais c'est le championnat belge des e-games, en fait, avec toutes les équipes de la première division. Moi, personnellement, c'est la première année que j'ai pu commenter ou que je peux commenter cette compétition. Mm-hmm. Et c'est cool parce que moi, j'ai grandi avec la console. J'ai grandi avec la PS1, la PS2, la PS3, PS4 et maintenant déjà la PS5. Mm-hmm. J'ai joué toute ma vie. Et de maintenant voir en fait ce secteur complètement professionnalisé et de voir que ben il y a des gens qui peuvent représenter leur club, représenter mon club, représenter ton club.
C'est dingue.
C'est super cool, tu vois, et de voir que ça passe à la télé, que c'est diffusé et tout.
Il y a pas encore de joueurs pour représenter l'Inter Milan par contre. Malheureusement, pas encore.
Mais écoute, après ça sera à venir. Je connais des gens hein,
à l'international, s'il y a une Ligue des Champions, une Pro League, je sais pas, une Champions League, on pourra toujours essayer,
ouais. Ben ouais, c'est ça quoi. Et puis je pense que tu le sais aussi, c'est surtout le fait que c'est devenu vraiment un championnat et que c'est devenu super compétitif, c'est ça qui est intéressant. Quoi.
Ouais, parce que c'est déjà la sixième année, toi, donc ça fait quand même du temps que chaque club doit avoir un représentant au niveau pro pour justement disputer ce championnat et élire le grand champion de Belgique.
Et alors, Xavier, quels sont les enjeux? Là, je suppose que comme dans le football, nous en allons en parler évidemment, la phase classique s'est terminée, on va faire un petit bilan ensemble de tout ce qui s'est passé, mais ici, on est en play-off alors. On vit les playoffs là. Les playoffs vont démarrer en E-Pro League, c'est
pas
ça?
Pas encore, tout à fait. Ils ont encore 5 ou 6 matchs, je pense, de la phase régulière.
D'accord.
Et puis après, ils auront les playoffs où les 8 meilleurs s'affronteront. Et le gagnant, si j'ai pas de bêtises, Alex pourra le confirmer, je pense, gagnera une place pour la Coupe du Monde FC 24.
D'accord.
Simplement. Donc après, à lui de faire de bonnes prestations à ce niveau-là.
Ah, donc il y a carrément une Coupe du Monde qui s'organise derrière, quoi.
Ouais, et je pense qu'il y a même un joueur qui joue maintenant pour Eupen, qui représente le Kosovo en équipe nationale. Ouais. Donc c'est intéressant de voir aussi qu'il, tu sais, y a des représentants de l'équipe nationale. Et cette année aussi dans le championnat, comme tu l'as dit, il y a donc les playoffs avec 8 équipes, mais ils ont fait en sorte que dans le système de playoffs, c'est aussi avec des playoffs 1, playoffs 2 et puis Champions playoff, tout ça, qu'il y a aussi un tournoi pour joueurs amateurs en fait, où est-ce que les gens pouvaient s'inscrire. Je sais pas si les inscriptions sont finies.
Je pense que les qualifications se jouent ce week-end, donc à mon avis, la description, ça doit plus ou moins bientôt.
Et donc là aussi, donc il y a un joueur amateur qui va sortir de ce truc et qui va pouvoir challenger en fait les joueurs pro. Et tu sais, ça, genre, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est un rêve.
Ouais, c'est
moi, il y a 10 ans, s'il y avait un tournoi où je pouvais m'inscrire, jouer à FIFA et dire à ma mère, hey, maman, je peux devenir champion de Belgique, mais j'aurais fait directement, tu vois.
Ouais, c'est clair.
C'est incroyable.
Et alors, quels sont les favoris? On a parlé d'un certain Ekman, le joueur de Bruges, ouais, c'est ouais. ça? Et puis, il y a également Shadow, c'est possible, je pense.
Shadow, standard,
un joueur du standard, d'accord. Ah. On en est où, là? Quels sont vraiment les prétendants au titre final?
Pour moi, ce sera vraiment, Ekman, le joueur du club de Bruges, qui vient de gagner la deuxième période. Cette année, il fonctionne un peu en système de tranches, toi, comme en football provincial, première tranche, deuxième tranche et tout ça.
D'accord.
C'est le joueur de Genk qui a gagné la première période. Donc, je pense que ça fait partie des favoris également, surtout qu'il a quand même été champion il y a 2 ans, je pense. L'année dernière, il s'incline en finale. Mm-hmm. Le joueur du club de Bruges, évidemment, on l'a dit. Celui de l'Union Saint-Gilloise, qui a été champion l'année dernière, donc il aura à cœur de défendre son titre. Shadow, qui a été champion il y a 5 ou 6 ans. Donc, il aura envie aussi de renouveler son titre. Et après, je pense qu'on a déjà fait pas mal de, on a déjà donné pas mal de favoris.
Ouais.
Ah, c'est intéressant en tout cas à suivre évidemment avec Alex. Si vous voulez suivre les aventures, évidemment ça se passera sur sur Proximus et ce sera avec Alex. Nous on va démarrer évidemment dans le débat et les débats importants aujourd'hui parce qu'il y a certainement une actualité absolument folle. Je pense que t'es venu le bonjour Alex. C'est dingue. Il y a du Domenico Tedesco évidemment qui a prolongé, il y a du Thibaut Courtois et puis on reviendra évidemment sur les enjeux importants. Charleroi va-t-il descendre? Le Standard peut-il remporter les Euro Playoffs? Et puis Anderlecht a-t-il perdu le titre en perdant contre Courtrai? Mais on en parlera. On démarre forcément avec Domenico Tedesco. La question, elle est simple, messieurs. Il a été prolongé par la Fédération belge jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Cette décision était-elle prématurée?
Je pense que oui. Mais d'un autre côté, je comprends pas le premier contrat, en fait. Donc, je comprends pas le premier, on va voir 10 mois, 12 mois, et puis on prolonge. Je pense que ça, c'était une erreur. Mm-hmm. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait juste donner un contrat normal, comme dans les autres pays.
Ouais.
Et qu'il fallait déjà partir sur 2 ans, 3 ans, parce que tu construis pas un projet en 10 mois. Donc, tu vois, je pense que le premier contrat, c'était une erreur. Du coup, je comprends que maintenant, ils ont voulu prolonger. Mais c'est prématuré parce que on a vu quoi? On a vu 4 matchs, 6 matchs, pas plus. On a vu beaucoup de choses essayer. Et je pense moi, je pense plutôt qu'ils veulent juste plutôt rassurer le groupe et rassurer les gens parce qu'il y a trop de bruit autour de l'équipe nationale en ce moment.
Ouais.
Et qu'ils se sont dit, il nous faut une forme de stabilité, en fait. Il faut qu'on trouve quelque chose. Mais je trouve ça un peu prématuré parce qu'en vrai, maintenant, tu prolonges quelqu'un qui n'a pas vraiment prouvé quelque chose, quoi.
Mais formellement, le fait de prolonger un entraîneur qui n'a pas encore disputé sa première compétition internationale, c'est aussi faire preuve d'un manque d'ambition, peut-être même d'un manque d'exigence concernant l'équipe nationale belge. On est d'accord que les résultats éliminatoires sont hyper intéressants, mais et ils sont très bons, mais encore une fois, une compétition internationale, c'est autrement. La gestion des égos, on est en train de le voir et on en parlera avec Courtois, ça reste quand même encore un vrai débat et assez compliqué pour Domenico Tedesco. Prolonger maintenant, à ce moment-là, est-ce que c'était vraiment le bon timing?
Je pense, comme l'a dit Alex, c'est un peu prématuré, c'est peut-être pas le bon timing, mais j'ai l'impression que c'est la suite logique. J'ai l'impression qu'en Belgique, c'est souvent comme ça, en fait. On donne un premier contrat, et puis avant la première grande compétition d'un entraîneur, on le prolonge pour le rassurer, donner confiance, pour lui dire, OK, ta place n'est pas en jeu si tu te loupes sur ce tournoi. C'est plus, entre guillemets, de la politique pour dire, OK, t'inquiète pas, ta place est là. Mais donc, effectivement, oui, c'est prématuré, c'est peut-être pas le bon timing, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça, plus ou moins. Toi, avoir la première compétition d'un sélectionneur, on le prolonge, si tu vas dire, OK, t'es tranquille. Par contre, si tu te plantes après, peut-être que ton contrat, on va te virer, toi.
Mais on avait dit qu'ils avaient fait une erreur, Xavier. On l'a dit sous Roberto Martinez, quand ils ont prolongé Roberto Martinez et qu'ils l'ont prolongé à nouveau et qu'ils lui ont redonné la confiance, alors que fondamentalement, peut-être qu'il avait tiré la quintessence de son groupe après l'Euro 2020. Quand il a prolongé à nouveau pour la fameuse Coupe du Monde 2022 qui est partie en autre boudin complètement, on en a parlé, on l'a exprimé. Et j'ai un peu l'impression que cette fédération ne retient pas les mots du passé. C'est ça qui me choque, en fait.
Mais après, et ça, c'est sans vouloir trop critiquer la fédération, mais moi personnellement j'ai jamais été fan de Roberto Martinez, donc moi la période qu'on vient de vivre, j'étais déjà dans un sentiment de je pense pas qu'on prend les bons choix et je pense qu'on est en train de traîner sur un projet qui va pas aboutir et on n'a pas retiré le maximum de ce projet là.
Ouais.
Je pense que ce que je trouve bizarre après, c'est de prendre un coach et de lui dire on te donne un an ou on te donne jusqu'au tournoi, tu vois, genre ou bien tu fais confiance au gars ou bien tu lui fais pas confiance, mais tu peux pas être entre deux et dire on va pas te faire confiance, mais si ça va, on va te prolonger, et puis on te prolonge alors que t'as pas encore prouvé. C'est brouillon, en fait. Mm-hmm. C'est même pour le supporter de foot, c'est pas clair, en fait. On le fait confiance ou on le fait pas confiance? Il fait du bon travail ou il fait pas du bon travail? Tu vois, c'est ça qui me dérange un peu, et c'est ce que je répète. Si tu fais confiance à un gars dès le premier jour et tu dis on va construire un projet, tu pars sur quelques années, tu pars sur le premier tournoi, on va te le donner parce que c'est un nouveau groupe, tu vas devoir tu sais, il a dû rajeunir l'équipe, il a dû changer le groupe. Il n'y a pas des attentes de fou pour le premier tournoi, tu vois.
Non, mais partir sur une gestion long terme, je suis d'accord que c'est très intéressant pour les, la qualité des joueurs, etc. Et ça assoit également d'abord la quiétude des joueurs, le côté certain d'arriver, d'aller quelque part avec avec une personne. Je pense qu'il est suffisamment jeune aussi que pour pouvoir se projeter sur une sélection long terme. Mais les problèmes du passé et les fantômes du passé seront toujours là. Et quelque part, la Belgique est un pays tellement conservateur dans ses stars qui ont ses statuts, etc., que Domenico Tedesco a pour moi intérêt, s'il ne veut pas être directement sous pression day one après l'Euro 2024, à faire véritablement des résultats, Xavier. Parce que là, il se met lui-même la pression ultime. S'il ne réussit pas ou qu'il ne performe pas avec ce groupe-là, dans ce type de circonstances-là, on n'a pas encore le troisième, la troisième équipe du groupe qui composera la phase de poule dans laquelle fait partie la Belgique. Mais on évalue que ce sera une équipe relativement bas niveau, en tout cas que la Belgique pourra accéder, relativement accessible pour le niveau des Diables Rouges. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on avance? Est-ce que lui-même a conscience de la pression qu'il va avoir s'il ne performe pas en ayant déjà prolongé? Alors que s'il ne prolongeait pas, derrière les deux, à un moment donné, avaient l'occasion de se revoir après et puis de faire ensuite un choix en l'état après. Tu vois, dans une deuxième position, dans une deuxième partie. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, clairement. Bah après, comme tu l'as dit, l'équipe qu'on va rajouter sera certainement pas une équipe du top non plus. Donc, il y a quand même peu de chances qu'ils performent pas et qu'ils passent pas les poules. Après, les poules, évidemment, c'est l'élimination directe. Donc ça, tu performes pas. Des fois, ça se voit peu de choses. C'est dur de juger, mais je pense pas qu'ils feront un mauvais euro non plus.
Ouais.
Et puis même s'il a prolongé, c'est pas pour ça qu'on peut pas le virer. Toi, ok, l'Union belge devra donner des indemnités, machin bidule. Et ça s'est déjà vu plein de fois. Mm-hmm. Moi, comme je dis, juste la prolongation, ok, il aura peut-être un peu plus de pression, mais je trouve que ça a pas forcément d'impact. Au final, un sélectionneur, quand on pense même aux autres sélections, est-ce qu'on connaît vraiment la durée de contrat des autres sélectionneurs? Pour un club, ça va encore, on dit, ok, il a prolongé jusqu'à 2028, truc comme ça. Mais pour une sélection nationale, j'ai l'impression que tout un chacun, il sait même pas, le sélectionneur, il est là, on en change, on repart et tout ça. Mais on parle jamais vraiment de leur contrat. Donc je pense que à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de pression.
Il y a quand même des entraîneurs, en tout cas des sélectionneurs, qui ont des contrats bien définis. On pense notamment à Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2022.
Ils ont des contrats bien définis, mais les supporters moyens, tout un chacun,
on est moins au courant.
Ils sont pas forcément au courant, toi.
Ouais, tout à fait.
Et c'est ça qui, je pense, fait que ça enlève un peu de pression par rapport à un entraîneur de club.
Oui, mais ceci dit, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que on savait tous que après l'Euro 2024, il était libre, Domenico Tedesco. Ça a été clair pour tout le monde. Donc tout le monde savait qu'il avait signé 2 ans. C'est pas parce que je suis dans le microcosme.
Pour les spécialistes.
Non, les supporters le savent qu'il avait fini.
Va dans la rue, interview 10 personnes qui regardent les Euros, les Coupes du Monde et qui s'intéressent au foot de près ou de loin. Demande-leur s'ils connaissent, puisque quand on va le contrat de Tedesco, je suis sûr qu'il y a 8 personnes sur 10 qui disent qu'ils sont pas au courant.
Mais moi, je pense qu'au vu de l'étonnement qu'il y a eu et d'ailleurs des discussions qu'il y a eu entre, différentes personnes dans la communauté et dans les communautés en général, d'ailleurs, certainement vous aussi sur X, sur Instagram, sur tous les réseaux, on a vu à quel point le fait de prolonger Domenico Tedesco, ça avait chamboulé les gens, en positif ou en négatif. Donc, ils ne le savaient pas, quelque part. Tu vois, il y a eu quand même cette espèce de surprise. Moi, je l'ai senti, je veux dire, formellement. Les gens il y a eu un vrai questionnement suite à ça. C'est pour ça que je vous pose la question.
Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, en fait. Dans le sens où, je suis d'accord avec toi, il y a eu des questionnements pour les joueurs, parce qu'on leur a donné l'info, OK, Tedesco vient de prolonger. Mais avant de leur donner et de leur présenter, ah, Tedesco prolonge, on va dire une heure avant la conférence de presse, enfin pas la conférence de presse, mais la présentation.
Ah, ils ont surpris tout le monde.
Est-ce qu'ils étaient au courant seulement que Tedesco, ce contrat allait jusqu'à après l'Euro? Je pense qu'ils étaient même pas au courant. C'est quand on leur dit, ok, ils prolongent, tu te dis, ah ouais, ok, son contrat, il allait que jusque là.
Ah, ok.
Tu vois?
Ouais, je sais pas. On n'est pas d'accord là-dessus.
Personnellement, je suis dans le foot et je regarde tout le temps du foot. Je sais même pas personnellement que ce contrat allait après l'Euro, toi. Ah, que pourtant, les contrats des sélectionneurs, on n'a pas forcément une belle vision dessus, on n'est pas forcément tout le temps au courant dessus, toi.
Je suis pas assez mon Twitter. Non.
Ben, je pense qu'il n'est pas,
peut-être pas assez. Ouais,
je pense juste qu'il n'est pas cohérent, c'est que tu dis, on va lui donner un contrat jusqu'à l'Euro, et s'il s'est prouvé à l'Euro, on va le prolonger, pour après dire, non, en fait, on lui fait déjà confiance, on va le prolonger. Je pense qu'il y a juste ça qui n'est pas cohérent. Ou bien tu dis, on le fait confiance pour une longue durée de période, il n'y a pas de souci. Ou bien tu dis, on veut qu'il se prouve, et puis on rallonge. Y a pas de souci. C'est juste que là maintenant on est tombé sur un truc.
Mais pourquoi t'as pas tout de suite signé 4 ans? C'est ça que je veux dire.
Mais c'est ça. Mais c'est juste que là on est tombé sur un truc de.
On va attendre.
Mais il a pas prouvé en fait. Donc pourquoi le prolonger si le premier discours était, on va d'abord attendre qu'il se prouve.
Exactement. Avant
de non, et c'est juste ça qui est pas cohérent, tu vois. Mais pour le reste, est-ce que c'est bien pour le coach qu'on lui donne un signe de confiance? Bien sûr. Lui, maintenant, il va être à l'aise pour le tournoi. Il va se dire, ah, j'ai la fédération qui me back, surtout dans mes choix, surtout parce que bon, il y a des choix qui sont, hein, on va, discutables. Il y a des choix qui sont un peu en, remis en question. Donc lui, maintenant, il sait, la fédé me back. OK, je peux y aller. Je peux faire mon truc. Donc pour lui, ouais, c'est positif.
Allez, parole de supporter, maintenant, on vous a posé la question sur X, anciennement appelé Twitter. Dans une interview accordée à Latest News, et oui, on les cite évidemment, Youri Tielemans admet que le Khatib Courtois, je cite, est un sujet dans le groupe, car nous nous demandons comment ça va finir. Alors la question qu'on vous a posée, c'est la suivante. La polémique Thibaut Courtois peut-elle pourrir l'Euro 2024 des Diables Rouges? On a plusieurs réactions à ça, notamment celle de Kijiliandra, j'espère que je l'ai bien dit. Ce mec a un ego surdimensionné, on parle de Courtois évidemment, et il est tombé sur quelqu'un qui s'en fout de son présumé statut. Maintenant à la question, je pense que ça va diviser le vestiaire, Courtois et les autres. Donc oui, ça pourrait pourrir l'ambiance et les prestations à l'Euro. On a aussi Naé qui nous dit, étant donné que Courtois vient publiquement de traiter son entraîneur de menteur, je pense oser dire qu'il n'a plus rien à faire en sélection, même sur le territoire belge. Voilà deux réactions, messieurs. Mmh. Alex, qu'est-ce qu'on en pense?
De la situation?
Bah, des réactions et de la situation. Est-ce qu'il va pourrir le vestiaire?
Mais, c'est une situation où est-ce qu'il y a plein de trucs qui me dérangent. Est-ce qu'il va pourrir le vestiaire? On le sait pas. Pourquoi on le sait pas? Parce que personne parle réellement. Courtois ne parle pas réellement, Tedesco ne parle pas réellement, et les joueurs qui sont dans le vestiaire ne disent pas réellement est-ce que ça pourrit le vestiaire, oui ou non. Donc on ne sait pas. Si ça pourrit le vestiaire, est-ce qu'il doit être dans le vestiaire? Non. Mm-hmm. Si ça ne pourrit pas le vestiaire, si les joueurs n'ont pas de soucis avec Courtois, est-ce qu'il doit être dans le vestiaire? Oui, c'est le meilleur gardien du monde. Ça, c'est mon premier problème. Mm-hmm. Mon deuxième problème, parce que je suis venu avec une liste. Hein.
Ah, non, mais c'est... il a travaillé.
Mon deuxième problème, c'est, je comprends que les journalistes doivent poser des questions. Mais poser des questions sur un joueur à un autre joueur, je trouve ça un manque de respect de dingue. Je trouve que quand tu viens interviewer Youri Tielemans, tu parles de Youri Tielemans. Tu parles de la carrière de Youri Tielemans, de la forme de Youri Tielemans et des jeux de l'équipe de Youri Tielemans. C'est super irrespectueux, en fait, d'aller parler à un professionnel qui joue au foot depuis ses 6 ans et qui bosse comme un acharné chaque jour, chaque nuit, chaque midi, mm-hmm. qui mange des pâtes depuis qu'il a 10 ans pour être sûr qu'il peut être en forme.
Je mange des pâtes aussi depuis que j'ai 10 ans, je suis en forme. Hein,
de venir le mettre là pendant 10 minutes obligatoire, ouais. Parce que la presse, souvent, c'est obligatoire, ils sont obligés d'être là, et de lui dire, et Thibaut, t'en penses quoi? Je trouve ça irrespectueux de ouf. Et surtout, ce que t'as dit au début, ce qu'on a, c'est un problème d'ego. À un moment donné, je t'avoue et je te jure qu'on sait plus, quel est le souci d'origine, mm-hmm. le problème de base. On sait plus. Là, on a l'impression qu'on est déjà sur 3-4 disputes.
Ouais, c'est ça, exactement.
On sait plus c'est quoi le, on sait plus pourquoi ils se disputent. Non, on sait juste sur, que, ouais. Ah, les deux, là, ils s'aiment pas. Ouais. Mais on sait même plus c'est quoi le souci.
À la base, c'est l'histoire du brassard. Ouais.
Oui, à la base.
Lors du premier match, un des premiers matchs de Tedesco, d'ailleurs, au stade Roi Baudouin, où, effectivement, il était allé trouver Domenico Tedesco, mm-hmm. Thibaut Courtois, en lui expliquant qu'il n'y avait pas lieu pour le moment de régler. En tout cas, il devait régler certaines choses pour que les problèmes qu'il pouvait y avoir en termes de privilèges que Roberto Martinez avait donné à certains joueurs et qui avaient un petit peu fissuré le vestiaire ne se reproduisent pas. Ça, c'est la version évidemment, Thibaut Courtois. Après, la version de Domenico Tedesco, elle est tout autre. Lui, il dit tout simplement qu'il est arrivé et qu'il a clairement fait comprendre que il ne se sentait plus bien dans ce groupe-là et qu'il voulait partir parce qu'il estimait que voilà, il y avait toute une série de raisons que lui a énoncées, que je viens de dire précédemment, qui faisaient qu'il était plus bien en odeur de sainteté, quoi.
Et c'est ça mon dernier souci, c'est que nous sommes des adultes, hommes, femmes, nous sommes des adultes. Et en fait, on est dans une situation où il y a deux adultes qui se sont disputés et il y en a un qui ment. On ne sait pas qui ment, mais il y en a un qui ment, parce qu'il y a deux versions.
Est-ce que c'est celui qui a tweeté avec Pinocchio dans la tête?
Je ne sais pas qui ment. Pinocchio. Je ne sais pas qui ment, mais juste la flemme. genre, on peut pas se comporter juste... Ou bien il y en a un qui dit, écoutez les gars, c'est ça qui s'est passé, c'est tout, je suis pas d'accord avec lui, ou bien tu me sélectionnes, ou bien tu me sélectionnes pas, fini. Mais à aller tweeter, à aller mettre des emojis, et l'autre qui fait une conférence de presse, qui dit non, moi je vous jure, j'ai tout fait. Oh les gars,
no
c'est
new information.
On peut pas juste aller à l'euro et essayer de gagner l'euro, les gars. Genre, on doit vraiment faire tout ce tralala. C'est ça qui est fatigant, tu vois. Et je pense aussi pour les fans, c'est vrai. Hein, je comprends tout le monde qui dit, écoute, quelqu'un qui veut pas jouer pour son pays, ben le sélectionnez pas. Je comprends parce qu'on aime le pays, donc on est fier d'être belge. Donc je comprends ce sentiment. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on est vraiment dans une situation où est-ce que un sportif de haut niveau et son coach doivent donner deux versions différentes et on doit se disputer à chaque semaine et il y en a un qui met des emojis et puis Witzel qui dit quelque chose et l'autre qui like et flemme les gars, franchement on peut pas régler ça comme des adultes, tu vois.
Je comprends. Xavier, la polémique justement Courtois, est-ce qu'elle peut pourrir, pour répondre à la question, l'euro de la Belgique?
Bah c'est dur à dire, je pense c'est possible, c'est une éventualité et dans un autre cas peut-être pas non plus, mais comme là, enfin, Alex, il a fait sa longue liste et il a dit plein de trucs intéressants. Mais moi, comme je dis, ce qui me pose problème aussi, c'est que, pour moi, OK, Courtois, il doit clairement pas réagir comme ça. C'est une attitude un petit peu d'enfant, d'envoyer des émojis de ça. Mais à côté de ça, pour le défendre un petit peu, il y a plein de trucs dans, enfin, que on n'est pas forcément au courant, qui sortent pas dans les médias. Comme tu l'as dit, il y a personne qui parle. Mais il y en a un ou l'autre qui ment, ça, c'est sûr.
Ouais.
Tu vois? Et pour Courtois, si c'était Desco qui ment, dans ce cas-là, pour Courtois, bon, même s'il doit pas réagir comme ça, c'est compliqué. Alors, t'as ton sélectionneur qui te fait passer pour la risée du pays, qui te fait que tout le pays presque te déteste, et ne rien dire, parce qu'il peut pas forcément parler non plus. Donc, c'est compliqué aussi pour lui, comme cas à gérer, toi. Et je pense que c'est vrai qu'il faudrait peut-être au moins éclaircir le point, parce que...
C'est mon seul souci, parle.
Voilà. Ouais, c'est ça.
C'est mon seul souci, parle. Ne mets pas d'emoji, parle. Parce que moi, je pense, et je sais aussi qu'il y avait une autre conversation où est-ce que, et ça, je sais pas si c'était avant Tedesco, où est-ce que on avait critiqué Courtois parce que dans le vestiaire, il aurait dit que voilà, avec les gens qui sont sélectionnés, c'est pas avec ça que tu vas aller gagner un tournoi, parce que c'est, il y a plus de gens qui jouent le bas de classement que le haut de classement. Moi, ce genre de discours, j'ai aucun souci avec ça parce que je suis sûr qu'un gars comme Courtois, un gars comme De Bruyne, qui sont dans des vestiaires du Real, de City, sous Ancelotti, sous Guardiola, savent ce que c'est de gagner. Ils savent ce qu'est la culture de gagner et ils savent ce qui est nécessaire de gagner. Donc sur ce truc-là, que Courtois soit frustré ou qu'il a peut-être le sentiment qu'on n'est pas en train de faire les bons choix pour gagner, j'ai aucun souci avec
ça. En l'occurrence, il ciblait Wout Faas et Timothy Castagne. Est-ce qu'il leur a manqué de respect, eux qui sont, dans l'esprit de Domenico Tedesco, des cadres importants?
Non, parce que dans le vestiaire du Real, dans le vestiaire de City, dans le vestiaire du Barça, dans le vestiaire d'United, je suis sûr, dans les grandes années de l'Inter, de l'AC Milan, c'est comme ça qu'on parle dans le vestiaire. Faut arrêter. Je comprends que peut-être pour les supporters, pour les fans, pour les gens qui sont pas dans le monde du foot, ça peut être choquant d'entendre des collègues qui se parlent comme ça. Mais je vous promets, quand on regarde l'histoire du Real de Madrid, t'as vu qui sont les joueurs qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas tenu la pression du vestiaire. On parle de Robben, on parle de Sneijder, on parle de grands joueurs. C'est comme ça que ça se passe dans ces vestiaires. Et moi, ça me dérange pas que lui veut amener cette mentalité dans ce vestiaire parce que ça veut dire qu'il se rend compte qu'on a ce qu'il faut. Et là, moi, j'ai pas de souci avec ça. Parce que dans les grands vestiaires, c'est comme ça que ça se passe. On a vu des vidéos de Benzema à la mi-temps qui dit « Arrête de lui donner la balle, il joue contre nous ».
Ouais, c'est vrai. On parlait de Vinicius, en l'occurrence.
Vinicius, les gars depuis, Mais Vinicius, ouais. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça le monde du sport, c'est ça le haut niveau. Là, on peut pas s'offusquer. C'est comme ça que on parle dans ce genre de situation, ce genre de sphère, tu vois. Donc ça, j'ai pas de souci avec ça. Mon seul souci, c'est parle. S'il te plaît, qu'il y en a au moins un des deux qui clarifie la situation. On prend un choix et on avance, tu vois. Mais pas des emojis, pas Twitter, X, tout ça.
On a une dernière petite réaction et après, je vais te laisser aller. Justement, c'est important que tu puisses réagir à ça. C'est Gricos Sorar qui nous dit « Non, le gars refuse une sélection nationale lors d'une compétition internationale, c'est son droit. Mais merci, au revoir, je peux comprendre son choix. Mais ce sera sans lui à partir de maintenant. » Respect pour la carrière de ce géant, mais on ne refuse pas une sélection nationale.
Bah pour une fois, je pense que ça dépend des contextes. Imagine, on l'appelle, est-ce que Tedesco a envie de l'appeler? Et il l'appelle et il sait, t'inquiète pas, tu viens, parce qu'il faut que je te prenne, mais je serais quand même jouer Koen Casteels ou Mats Hummels, toi. Enfin, là aussi, il y a un souci. Le souci, c'est qu'on voit juste la pointe de l'iceberg, comme on dit. Ouais. On ne sait pas tout ce qui n'est pas forcément dit et tout ça. Donc, je trouve. Ok, peut-être qu'il a refusé, mais est-ce qu'il a vraiment refusé? Est-ce que on l'a que pour refuser, il faut qu'on demande de venir? Est-ce qu'on lui a demandé de venir aussi, toi? Tous ces trucs-là, on n'est pas au courant. Et il y a tout le monde qui a son avis, tout le monde qui émet des jugements, mais qui a vraiment toutes les informations? J'ai l'impression que personne. Donc pour moi, tu peux pas mettre de jugement, être aussi catégorique que ça, si t'as pas toutes les informations pour dire ok ceci, ok cela.
On devrait donc se passer du meilleur gardien du monde pour aller à l'Euro. C'est quand même un vrai problème. Est-ce qu'on imagine un jour la France faire sans son meilleur joueur, en l'occurrence Kylian Mbappé, l'Euro sur ce type de problème? Est-ce qu'on imagine Didier Deschamps se mettre dans ce type de difficulté-là avec un Kylian Mbappé alors que tout lui a été cédé, notamment les droits d'image, notamment tous les problèmes, on le sait, liés à voilà, on en parle, aux publicités, etc. Ça a été une polémique en France. Pourtant, on a pris le dos de Kylian Mbappé. On a fait en sorte de le mettre dans les meilleures conditions et aujourd'hui Kylian Mbappé est le capitaine, on lui a donné le brassard, etc. Parce que c'est un joueur qui est plus fort, qui est hors norme. Je suis désolé, mais en tant que gardien, qui est meilleur actuellement dans le monde que Thibaut Courtois, faut se dire les choses aussi. Ouais. Moi, je suis pas en train de reprendre pour Thibaut Courtois, pardon, là-dessus, mais il faut quand même se rendre compte qu'on va faire l'Euro sans le meilleur gardien du monde potentiellement.
Mais je pense
juste conscientiser ça.
Le gardien, c'est peut-être moins important. Enfin, comme tu dis, c'est peut-être le meilleur gardien du monde, je suis d'accord et tout, mais. Est-ce que ça aurait été genre un numéro 9 ou quoi comme Mbappé? Est-ce qu'on aurait eu la même polémique, toi? Parce que un gardien, on a quand même de très bons gardiens, toi. Faut pas manquer de respect à Kun Kassel, c'est ça qui a quand même été élu plusieurs
fois. Est-ce que prendre des buts, c'est plus important que ne pas en encaisser?
En soi, si ta défense fait le job, ton gardien, il a rien à faire. Ouais. Ton gardien, il est juste là pour attraper les conneries de ta défense. Tu vois? Et t'as quand même des gardiens. Kassel, ça a quand même été élu plusieurs fois meilleur gardien de Bundesliga et tout. Il mérite aussi sa place. Ok, c'est pas Thibaut Courtois. Ça, je l'admets. Mais je pense que, on est aussi dans cette polémique-là, dans le sens où c'est un poste de gardien, et c'est pas, toi, je retournerais le même souci à l'inverse, on va prendre avec Lukaku, par exemple, parce que c'est notre numéro 9 attitré. Je suis pas sûr qu'on serait parti dans les mêmes, ils auraient peut-être plus arrondi les angles et tout ça.
Ouais.
Moi, je suis d'accord, parce que c'est une discussion que j'ai eue avec des potes, et tout le monde m'a dit aussi, ouais, mais la position du gardien, c'est, on va dire, entre guillemets, moins important que si c'était le 9 ou le 10, etc. Je pense juste que parce que comme on n'a pas une très bonne défense en ce moment, c'est là où est-ce que le fait Thibaut Courtois fait la différence, parce qu'il est exceptionnel. Mais pour revenir sur ton exemple de la France, je pense que la grosse différence est que la Belgique, on a maintenant depuis des années de très bonnes générations, on n'a pas le vivier de la France. La France, à un moment, ils ont fait sans Benzema, ils ont fait sans Ribéry, ils ont gagné la Coupe du Monde sans Benzema, alors que Benzema, c'était le top du top, tu vois. Mais ils pouvaient mettre Giroud, Mbappé, Griezmann, Ousmane Dembélé, Matuidi. Ben oui, c'est vrai que ça fait moins mal, tu vois. Mais je pense que la Belgique, avec un Courtois, peut aller gagner cet euro. Je pense vraiment qu'ils ont assez pour aller gagner cet euro. Je sais pas si sans Courtois, ils peuvent aller gagner.
Donc, tu réponds à la question. Est-ce qu'on peut se passer Thibaut Courtois pour faire un résultat à l'euro? On peut pas s'en passer pour faire un résultat. Si on veut faire un résultat, il est indispensable.
Moi, je pense aussi. Mais, je comprends la personne qui dit, à partir du moment où tu refuses une sélection, il n'y a pas de souci, on te respecte, mais tu restes à la maison. Ça, je comprends. Et c'est là qu'il faut faire un choix. En tant que fédération, en tant que coach, il faut faire un choix. Quels sont nos principes? Quelles sont les règles? Et dès que tu fais le choix, on est obligé de tous respecter ce choix. Mais c'est là où est-ce que j'ai l'impression que on est en train de danser autour de la table, on n'est pas en train de dire c'est comme ça, tu vois.
Allez, n'hésitez pas, évidemment, dans les commentaires à nous donner votre avis. Thibaut Courtois doit-il revenir en sélection avec la Belgique? C'est très important. Et surtout, on vous lira tous avec grande attention. On passe maintenant au moment fort de la semaine. Important. C'était pas dans le conduit, mais il faut quand même en parler parce que il est en train de se passer quasiment un drama du côté de Charleroi. Est-ce que les Zèbres vont descendre? Ça, c'est une vraie question. Quand on voit la situation, quand on voit la rencontre face à la Gantoise, on peut se poser véritablement des questions. Est-ce que le groupe a lâché Felice Matsu? Est-ce que cette équipe a les forces individuelles et collectives pour essayer d'aller dans une bataille où à un moment donné, ça va plus être du rugby que du football, où il va falloir aller à un moment donné avec d'autres valeurs que des valeurs techniques? Est-ce que psychologiquement et mentalement, il y a dans ce groupe les ressources nécessaires pour pouvoir se sauver?
Vas-y, Xavier, pas de soucis. Je pense, moi, ils vont se sauver dans le sens où il y a quand même que, enfin, il y a deux descendants, un qui joue les barrages, et quand tu joues les barrages, si t'arrives pas à battre entre la troisième et le sixième de D1B, si t'arrives pas à les battre, c'est que t'as un problème et que tu mettais vraiment pas ta place en D1A, tu vois. Donc, je pense que on aura que deux descendants et les deux autres se sauveront. Et ici, ils ont quand même, si je dis pas de bêtises, 5 points d'avance.
Alors, 29 points pour Charleroi.
C'est 24 et 24.
24 pour Courtrai, 24 pour Eupen et 23 pour le RWDM.
Voilà, tu vois, donc ils ont quand même 5 points d'avance. Il y a quand même que 6 matchs. C'est quand même presque 2 matchs d'avance. Chez eux, ils vont quand même, de temps en temps, faire des matchs nuls ou autres. Ils vont quand même prendre quelques points. Ils vont pas faire 0 sur 18. Enfin, ça m'étonne. Je leur souhaite pas. Donc, je pense avec 5 points d'avance, en prenant des petits points plic-ploc, que si tu prends des points, l'adversaire les prend pas, évidemment. Enfin, c'est mathématique. Je pense qu'ils descendront pas.
Ils doivent se sauver. ils doivent se sauver pour plusieurs raisons. Je pense que déjà, la première raison, souvent, on va dire non, mais c'est Charleroi, c'est un grand club, c'est, tu sais, pour les clubs wallons aussi, c'est important. Mais honnêtement, moi, la première raison, c'est la qualité du noyau. C'est, ils ont fait une saison abominable, même si je connais pas d'autres mots en dessous d'abominable, autrement, je l'aurais utilisé. Ouais.
Catastrophique, cataclysmique.
Ouais. Mais c'est pas pour ça que c'est un mauvais noyau, hein. Mm-hmm. Ils ont un bon noyau, ils ont de bons joueurs. Mm-hmm. C'est juste qu'effectivement, je pense que ce soit le club plus haut, dans les bureaux, dans les vestiaires, avec le coach, il y a un truc qui s'est déconnecté complètement entre le groupe et le reste. Je pense que les supporters aussi sont mécontents de ouf. Il y a eu plein de situations. Mais juste en termes de qualité, quand tu regardes les quatre équipes, Charleroi est au-dessus et ils ont 6 points d'avance. Ils doivent se sauver. Il faut pas. À un moment donné, je pense aussi qu'en tant que groupe et en tant que joueur de foot, ils vont assez se respecter pour se dire regardez, on n'est peut-être plus avec le coach, on n'est peut-être plus avec Tchik, on n'est peut-être plus avec Tchak, mais on va se sauver. Et dès qu'on s'est sauvé, on va avoir une conversation et on veut que ça change. Et il y aura des joueurs qui vont. Il y a des joueurs qui vont partir, il y a des joueurs qui vont rester. Mm-hmm. Mais juste en termes de qualité, ils peuvent. Cette équipe peut pas descendre. Je suis désolé.
Mais c'est clair. Mais sauf qu'intrinsèquement, actuellement, la meilleure équipe de ces quatre, c'est Courtrai, très clairement. Ouais. Courtrai avec et on en parle tout de suite. On va faire la transition avec cette victoire face au Sporting d'Anderlecht qui a montré durant 90 minutes. Qu'elle était au-dessus du Sporting d'Anderlecht, qu'elle était meilleure que son adversaire. Et quand on a une équipe boostée comme ça, prête, qui a été chercher les points, qui ont fait ce que personne pensait possible, c'est-à-dire revenir de leur écart de points immense avec le 15e. Là, ça y est, quoi. Ils sont au même nombre de points que Penn, qui vient d'avoir un coach démissionnaire.
Ouais.
Et je pense que Charleroi va être en difficulté face à cette équipe de Courtrai qui va être pour moi son plus grand adversaire, très clairement.
Ce qui est super intéressant en plus avec Courtrai, c'est que quand on voit les points qu'ils ont commencé à prendre, et moi j'étais au stade contre Anderlecht, c'est que surtout tu vois qu'en fait, c'est tactiquement qu'ils prennent le dessus en fait. Et ça c'est intéressant parce qu'une équipe qui est en bas de classement, mais où est-ce que tu vois quand tu regardes des matchs que ah mais ils font des bons choix tactiques et ils ont trouvé les bons joueurs, tu vois, ils ont trouvé le bon système pour le noyau qu'ils ont et tu vois que maintenant tout le monde commence un peu à s'épanouir, ça se bagarre mais ça bouge super bien en bloc, tout le monde respecte, tu vois, les consignes tactiques, tout le monde respecte ce qu'il doit faire. C'est vrai que là dans une situation où est-ce que maintenant ça va devenir c'est la bagarre maintenant. Ouais. Là Courtrai ça va être chaud. Je pense Charleroi a une avance, mais l'équipe à battre, ou l'équipe qui va vraiment, vraiment, vraiment tout faire, c'est Courtrai de ouf.
Le RWDM, qu'est-ce qu'on en pense? On a un peu l'impression que Bruno Irles, le poète, est arrivé et n'a pas justement saisi l'importance ou l'urgence de la situation. C'est peut-être eux, la plus faible équipe avec peine du championnat.
Ah ouais, à l'heure actuelle, je pense que oui.
Ils ont fait
un fait un très bon début de saison et puis après, depuis peut-être janvier ou peut-être déjà le mois de décembre, c'est fini. Ils prennent, je sais pas s'ils ont déjà pris des points depuis, même. Mais ouais, ils produisent pas de jeu, ils en prennent 3-4 toutes les semaines. Il y a un souci et puis, à mon avis, il y a pas de souci en interne. Enfin, quand c'est comme ça, il y a toujours des soucis en interne. Quand tu vois, il y a certains joueurs qui jouent pas alors que je trouve qu'ils méritent 100 fois leur place sur le terrain.
Il y a des joueurs de qualité.
Xavier Mercier qui joue pas. Ouais. Il pourrait t'apporter tellement plus, même Matt Cargay qui était sur le banc cette semaine.
Ouais, c'est incompréhensible. Ouais,
après, il a rentré,
absolument
il a pris
incompréhensible. Ouf,
soir, mais... Je veux dire, tu vois, des joueurs comme ça, il y a des fois, tu te demandes un peu ce qui se passe au RWD, mais c'est vrai que le coach n'a pas forcément apporté
la plus-value. C'est la grande différence, je trouve, entre le RWDM et Eupen, Alex. C'est qu'à Eupen, franchement, on sent un vrai manque de qualité. Il y a des envies, mais il y a individuellement, on sent que c'est vraiment l'équipe la plus faible du championnat. Ouais. Je suis désolé de le dire comme ça, mais en plus de ça, il y a un manque de caractère assez clair. On voit que c'est des joueurs qui, pour moi, sont parfois même moins bons que certains qu'on peut trouver au Berscott, à Danes, à Dender, en Challenger Pro League. Donc, c'est pour moi assez normal de les retrouver à ce moment-là. Mais le RWDM, t'as Jeffrey Nadelaïde, tu l'as dit, Mercier, Mac Targay, Biron, dans le milieu de terrain, il y a Pierre Domo, il y a Alexis Dessart, si je ne m'abuse,
qui revient
de blessure, mais qui est quand même dans ce groupe-là. Il y a des éléments d'une qualité autre quand même. Tu peux faire autre chose avec ce que t'as.
Ben clairement, et c'est ça, je pense que, parce que du coup, le cercle RWDM aussi, j'étais au stade, et j'étais vraiment étonné, en fait, parce que moi, j'ai vu l'RWDM quelques fois cette saison, et de voir ces deux visages, en fait. Moi, je les ai vus en début de saison jouer, faire des matchs super compétitifs, ça se battait au milieu de terrain. Tu vois, on avait vu un joueur comme Domo qui est connu pour être un joueur technique, mais qui se bagarrait au milieu, qui respirait des ballons. Tu sentais qu'il y avait une envie, ça jouait vers l'avant. Tu vois, t'avais Biron qui marquait, tout. Il y avait vraiment une, et surtout, il y a ce que je retrouvais, c'est qu'il y avait une vibe. Tu sentais que même le groupe, en fait, tu sentais que c'était des potes. Ils se sentaient bien ensemble. Ouais. Et c'est ça que j'ai l'impression qu'on a perdu, en fait. Et quand j'ai vu le match contre le Cercle, en termes de niveau, ils étaient nulle part, en fait. Ils ont rien apporté. Après, c'est vrai que le Cercle est venu avec un truc de nous, on doit battre l'ennemi, tu vois. Mais même là, quand tu joues le bas de classement, tu dois avoir cette même mentalité.
Tu dois te battre pour essayer de prendre même c'est un ça. Petit point. Toi, un petit point, ça fera peut-être
c'est
la différence.
C'est ça. Et c'est ça que j'ai pas retrouvé. Et je pense que c'est triste parce qu'effectivement, l'RDM aussi a un très bon noyau. Mais je pense que ouais, Courtrai, Charleroi, ça va être au-dessus. Et Eupen, comme tu dis, c'est juste un manque de qualité.
Alors, un des matchs que tu as été voir aussi, c'est le match donc forcément dont on a parlé entre le Sporting d'Anderlecht et le KV Kortrijk. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs facteurs que tu as vu, toi, en tant que spectateur, qui te font dire et qui te font croire à l'impossibilité d'un titre pour le RSCA? Est-ce qu'il y a une raison ou l'autre où tu te dis, sur base de ça, sur base de ça, sur ce que j'ai vu, pour moi, c'est ce qui prouve qu'Anderlecht ne va pas gagner le titre?
Moi, il n'y en a qu'un, et c'est le seul que j'ai vu durant toute cette saison, c'est les choix tactiques du coach, en fait. C'est le seul souci que moi, je pense qui peut porter problème à ce groupe. Parce que le noyau est trop large, il y a trop de qualité, il y a trop de bons joueurs, et il y a trop de joueurs aussi pour... C'est une équipe qui peut jouer plusieurs systèmes tactiques. Hein. Ils peuvent rester dans la même formation, mais ils peuvent jouer plusieurs systèmes tactiques. Il y a trop de qualité. Mais j'ai pas assez vu ce coach cette année faire des choix tactiques où est-ce que je me suis dit « Ah, là, je vois que t'as anticipé mm-hmm. » ou « Je vois que t'as changé quelque chose à la mi-temps. » Et je pense que le match contre Courtrai était un bon exemple. Je pense que après, je pense que c'est un bon coach, mais je pense que le match contre Courtrai, c'était évident. Où est-ce que genre tu joues avec un double pivot, t'as Ritz et Lenny. Si tu sens en première mi-temps que ça fonctionne pas et tu sens que Courtrai, ben tout est centralisé en fait. Tu sais, ils jouent vraiment en mode bloc, tout est bloqué au centre. Mm-hmm. Pourquoi nous aussi on va bloquer le centre? Tu vois, pourquoi nous alors on va pas jouer sur les ailes? Pourquoi on va pas jouer en profondeur? Pourquoi on joue pas dans le dos de Courtrai? Parce qu'on voit que quand il y a des appels de balles de Dreyer, ça fait directement mal parce qu'il y a pas de vrai back, ils sont à trois derrière. On commence avec Dolberg, Vázquez contre une défense à trois. Est-ce qu'on peut pas aller chercher la profondeur? Tu vois, c'est des petits trucs comme ça où est-ce que je me dis, on va jouer contre l'Union qui joue à trois derrière, on va jouer contre Genk, ok, on va jouer contre le Cercle qui joue à trois derrière. C'est un système qui nous va pas toujours très bien. Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à ces systèmes-là? C'est la seule question que j'ai par rapport au groupe. Mais je pense qu'en termes de qualité, en termes de noyau, Anderlecht doit normalement aller chercher le titre.
Et Anderlecht qui n'avait plus perdu depuis sa défaite face au Standard à Sclessin, c'était 3-2 et c'était le 22 octobre 2023, première défaite à domicile aussi depuis près de 11 mois. C'est un véritable coup d'arrêt. Pour aller dans le prolongement qu'expliquait Alex, Xavier, comment t'expliques cette contre-performance?
Moi je pense, il y a un truc, déjà Anderlecht, deux points que j'ai envie de mettre en évidence, j'ai l'impression qu'ils sont quand même trop dépendants de Dreyer. Quand tu vois ses stats comparé au reste du groupe, je crois qu'il les explose tous. Et encore ici, le goal refusé de Dreyer, enfin le goal refusé d'Anderlecht, c'est lui qui le met. Et j'ai l'impression que si lui est pas capable de faire la différence, Anderlecht a vraiment du mal offensivement. Des fois, il y en a d'autres qui marquent, je dis pas le contraire, mais c'est vraiment lui, je pense, qui fait qu'Anderlecht est trop dépendant pour prendre des points. Et j'ai l'impression qu'Anderlecht, ok, ils ont gagné dernière semaine, mais c'était quand même limite. Ça fait quelques semaines, peut-être même un mois ou l'autre, que de base, de Vertonghen, ils sont plus au niveau pour le moment. Ils font erreur sur erreur en match. On voit ici, il y a une erreur de Vertonghen au moment où après Messaoudi, il rate la mancale en 1 contre 1. Le 1-0 de Courtrai, c'est une erreur de De Bast où quand c'est 0-0, t'essayes pas une relance difficile comme ça, contrôle difficile, tu pousses le ballon puis tu la passes ton coéquipier. Toi, toutes ces erreurs-là, j'ai l'impression que les deux centraux, et il y a pas si il y a Gattoni, mais il a joué qu'un match, toutes ces erreurs-là font que Anderlecht est moins serein et galère parce que tes centraux, pour le moment, ils sont pas à niveau. Est-ce qu'ils sont pas concentrés ou autre? Mais tes deux centraux, et t'as qu'eux, ils font erreur sur erreur chaque match pour le moment. Et c'est ça qui fait qu'Anderlecht est un peu plus en galère, toi. Mm-hmm. Et tant qu'eux, ils retrouveront pas leur niveau, je pense qu'Anderlecht peut pas aller chercher le titre. S'ils arrivent à se remobiliser et à être bons dès le début des playoffs, alors peut-être. Mais ça passe par là, parce qu'une bonne équipe, si tu veux prendre des points, si t'encaisses pas, déjà, t'as déjà fait 50% du boulot, toi. Ouais. Et pour le moment, là, c'est problématique, j'ai l'impression.
Et donc, la possibilité ou la solution Federico Gattoni ne vous convainc pas?
Si, peut-être, c'est juste qu'on l'a vu qu'une fois, donc c'est dur de juger sur un seul match, c'est ça. Mais potentiellement, pourquoi pas, pour peut-être que les deux autres se réveillent un peu plus, toi.
Moi, je pense que surtout, ce qui peut les aider ou ce dont ils vont avoir besoin, c'est Delaney, en fait, devant la défense. Je pense que lui, il a été blessé quelques semaines. Il est maintenant revenu. Là, c'était en double pivot. Je pense que c'est lui qui va vraiment de nouveau devoir s'installer devant la défense et déjà un peu nettoyer le plus possible pour que justement les deux centraux, on va avoir moins de boulot, moins d'un contre un, ce genre de truc. Et puis repartir sur un et mettre après 2-8, 2-2, tu vois, des milieux plus à la Struikens, qui est technique, mais qui bosse aussi et qui peuvent un peu aller bosser devant. Et je pense aussi, ce qui va être un facteur, je sais pas s'il va revenir à temps, maintenant je pense qu'il s'entraîne, c'est Amouzou.
Ouais.
Parce que...
Il y a tout autour. Hein.
Ouais. Amouzou et Angulo, ce qui amène, en fait, c'est une flexibilité tactique. C'est que maintenant, t'as Dreyer et Thorgan qui rentrent dans l'axe. T'as alors Sardella qui doit faire le flanc, t'as Augustinsson qui doit faire le flanc. Mais Amouzou, Angulo sont deux joueurs qui sur ce flanc, parce que bon, Dreyer, il va jamais sauter, il va toujours jouer, sont deux joueurs qui peuvent amener de la profondeur, qui peuvent amener de l'un contre un, qui peuvent amener des actions et qui peuvent là en fait amener juste un truc différent, tu vois, parce que là maintenant on sait ce qu'ils vont faire, c'est toujours la même chose, c'est répétitif à chaque fois, et je pense que t'as besoin de ces 2-3 joueurs qui peuvent aussi un peu changer le jeu, faire un truc différent.
J'ai vu aussi beaucoup de critiques concernant l'association entre Max Ritz et Delany, où certains ont dit plus jamais. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Pour toi c'est un ou l'autre et pas les deux dans le cœur du jeu d'Anderlecht?
Oui, parce que pour moi ils font le même boulot. Ils font le même boulot et on n'a pas besoin parce que c'est ça aussi un peu le truc, c'est que ça te donne une impression, et surtout pour le supporter, je comprends, ça te donne une impression que on va défendre contre Courtrai à la maison un samedi soir, ouais, les gars, ouais, à 20h45, il fait bon dehors.
Mais ce qui est très paradoxal, parce que il s'était déplacé quasiment avec 5 éléments offensifs à Bruges. Bah avec la tactique de Riemer quelques semaines avant.
Bah oui.
C'est quand même un peu schizophrénique, quoi.
Mais c'est pour ça, le supporter d'Anderlecht va jamais comprendre que tu n'attaques pas à la maison un samedi soir contre Courtrai. C'est dans notre ADN. C'est on est né avec, tu vois.
Ouais.
Donc là, quand tu vois Ritz, Delany, tu sais que, mais quand Delany est pas là, c'est Ritz qui prend sa place. Et donc, tu te dis, c'est deux fois le même profil. Il n'y a pas besoin. C'est pour ça que je pense que un des deux doit jouer. Après, les deux ont fait une bonne saison et les deux font un bon boulot. Faudra juste faire un choix, en fait. Mm-hmm. Si après, quand tu joues contre Bruges ou tu joues contre l'Union et tu dis, ah, on va avoir une bataille au milieu de terrain, je mets les deux. Ça, je comprends totalement.
Ouais.
Mais pas contre Courtrai quand tu sais que, tu sais,
avec. C'est d'autant plus incompréhensible que quand il pouvait le faire, il a fait le choix de ne pas le faire, puisqu'il a mis des éléments offensifs comme Verskaren et Strokens au moment où il aurait pu mettre Delany. Et, alors, je sais pas s'il était fit ou pas d'ailleurs, mais il y avait cette possibilité en tout cas de jouer un peu plus défensivement. Et il a justement opté pour le contraire. Ça lui a réussi, ça a permis à Anderlecht de gagner. Et là, il s'est un petit peu, je dirais, menti à lui-même en jouant trop défensivement à domicile.
Bah oui, et je pense que, tu sais, quand t'es supporter d'Anderlecht, en général, on est un peu dans cette mentalité hollandaise, genre, tu vois, l'attaque, c'est la meilleure défense, en fait.
Mm-hmm.
Nous, on n'est pas là pour jouer à bloc, on n'est pas là pour jouer avec un double pivot. On va prendre la balle, on va presser l'adversaire, on va l'enfoncer dans son goal, et surtout quand on joue à la maison. Et je pense que c'est là que les gens, ils ont un peu eu ce truc de... Pourquoi on va jouer avec un double pivot? Il n'y a pas besoin, tu vois. Mais bon, après, il y a les disponibilités, il y a les blessures, etc.
Ouais, je comprends bien. On va passer au Standard de Liège maintenant, parce qu'on va évidemment se baser sur la victoire 4-0 contre Penn. Alors, on a parlé de Penn et de ses défaillances et de ses faiblesses. Certainement, on le répète, la pire équipe du championnat de Belgique. Mais le Standard peut-il remporter les Europe Playoffs? Est-ce que tu y crois? Est-ce qu'il y a un infime espoir, mon cher Xavier?
Non, pas du tout.
Rien du tout.
Non, tu sais bien, je suis gay. Ouais, évidemment. Standard, mais
c'est pour ça que je pose la question à toi en premier. Cette fois-ci, je ne t'ai pas oublié. Tu es ma priorité.
Ouais, mais honnêtement, j'y crois pas. Comme l'a dit Yannick Ferreira la semaine dernière, le problème au Standard, c'est que tu gagnes une fois, et la semaine d'après, tu te crois beau et tu vas perdre.
Ouais.
Bon, je leur souhaite qu'ils gagnent tous leurs matchs en playoff, en Europe playoff, mais je doute surtout que, ben, il y a quand même Gant qui a un sérieux candidat qui revient bien.
Effectivement.
Et Malines aussi, donc ça va être compliqué de. Puis ils commencent déjà avec pas mal de retard aussi, le Standard, toi. Donc, faut déjà rattraper ce retard-là, en espérant que les autres perdent des points. Donc, ça va être très, très compliqué. C'est pour ça que j'y crois pas trop.
Allez, ça va être assez compliqué. Alex, est-ce que t'es dans la même énergie? Est-ce que tu penses que, bon, au regard, je pense qu'il y a 7 points de différence. Il pourrait y en avoir 10. Si le premier match, qui d'ailleurs opposera la Gantoise au Standard de Liège à Gand est remporté par les Buffalo, tu penses qu'il y a même pas 5% d'espoir de voir le Standard les remporter, y aller chercher, parce qu'il faut le dire, il y a une vraie possibilité, sans passer par ce fameux test match entre le quatrième des Champions Playoffs et le leader, le vainqueur des Euro Playoffs, je dirais, voilà, d'aller chercher ce fameux ticket européen. Il y a quelque chose à jouer vraiment là. Pour le coup, l'Union Saint-Gilloise et l'Antwerp qui vont se rencontrer en Coupe de Belgique en finale, je dirais, offre des opportunités aux autres équipes pour ces fameux Europe Playoffs. Est-ce que le Standard peut jouer de ça? Est-ce qu'il y a un mini espoir?
Moi, je pense pas, parce que je trouve que l'équipe n'a pas assez montré cette saison pour me donner un sentiment de ok, je pense que cette équipe peut aller faire quelque chose. Je pense que ce qui est spécial au Standard, et même en tant que supporter d'Anderlecht, je vais le dire et je l'avoue, c'est que le Standard a un 12e homme. Le Standard a un public, un supporter.
Là, ça lui fait mal. Qui... Je vais le dire et je
l'avoue. Non, parce que tu sais, on aime le foot, on se respecte, tu vois, et je respecte le Standard, je respecte le supporter du Standard. Le Standard a un 12e homme incroyable qui peut, dans toute situation, faire en sorte que le Standard gagne. C'est un truc, c'est du jamais vu. Mais les playoffs 2, c'est pas assez pour le supporter du Standard. Ouais. Le supporter du Standard se respecte assez pour savoir que respectez-nous. Jouez comme il faut, donnez-nous une saison et on va vous redonner ce que vous méritez. Mais je pense pas que le supporter du Standard va maintenant aller se casser le dos ouais. après cette saison pour aller encore une fois aller leur donner cette magie. Ça, je pense pas, tu vois. Je pense pas que le noyau, l'équipe y a assez. Et surtout, le premier match à Gand, c'est pas un cadeau.
Ouais.
Aller jouer à Gand, c'est pas un cadeau. Dans n'importe quelle situation, jouer à Gand, c'est chaud.
Et je ne sais pas s'il y aura non plus la même ferveur que celle que tu décris, parce que j'étais notamment en tribune supporter, pour le coup, pour le match entre le Standard et la Gantoise, et j'entendais beaucoup de supporters dire « Mais non, mais on ne renouvelle pas, si, même si les prix sont attractifs, on n'a pas forcément envie d'aller, je dirais, supporter les Playoffs 2, parce que c'est quasiment la coupe en chocolat, et encore, tu ne sais pas si tu vas l'avoir. »
Là, c'est ça.
Ouais, c'est clairement ça. Puis après, il y a peu de chances, comme on l'a dit, peu de chances qu'ils y arrivent. Les supporters en ont un petit peu marre. Et de manière générale, le Standard, que ça fait quelques années qu'ils sont, ils ont des petits soucis niveau sportif, mais quand tu es supporter du Standard, tu veux qu'ils jouent les playoffs 1. En plus, si tu passes de 4 à 6 personnes en playoffs 1, et en playoffs 2, c'est ouais, ici ta saison elle est finie pour la majorité des supporters. Après, ici les prix sont attractifs. Hein. Je crois que si je dis pas de bêtises, si tu reprends ton abonnement, le prix de ton abonnement est reversé en crédit pour des consommations au stade. Donc, ça fait que c'est plus ou moins gratuit, toi, entre guillemets, toi. Donc, peut-être qu'avec ça, il y aura plus de supporters quand même, un geste assez sympathique.
Les supporters, ils aiment bien la bibine, ouais, effectivement.
Tu peux prendre un paquet de frites. Je dis consommation, donc tu peux prendre des frites.
Les rois de l'Axa, c'est vraiment incroyable. Voilà.
On sait de quelle consommation on parle. Moi, on me remet mon abonnement en pinte.
Voilà, c'est ça. Et ben, c'est à tout dit, effectivement. Très bon. En tout cas, ils ont bien ciblé le cœur de cible. Voilà. Le client a été bien ciblé, là. Là, c'est parfait. On va terminer. Forcément, ces moments forts de la semaine avec le club de Bruges parce qu'il y a une actualité absolument folle. On l'a annoncé notamment sur X, le départ de Ronny Deyla a été officialisé il y a de cela un peu moins de 24 heures. Alors, au regard de la distance avec l'Union en Jupiler Pro League et d'un tableau relativement ouvert en Conference League, on sait que le club de Bruges va d'abord rencontrer le PAOK et puis possiblement dans cette partie de tableau-là, soit le Victoria Pilsen, soit la Fiorentina, ce qui pourrait leur donner un possible accès à Athènes en finale forcément de la Conference League qui pourrait donc, je le disais, les mener là-bas. Le club de Bruges doit-il tout miser sur la C4 au détriment des Champions Playoff, Alex?
Moi, perso, oui. Allez-y. Franchement, ouais. Allez-y. Club belge, moyen de gagner une coupe européenne, allez-y à fond. Parce qu'en championnat, ça a été le bordel. En Europe, on vous respecte parce qu'il y a eu la saison en Champions League et puis maintenant vous êtes en Conference League. Allez-y à fond parce qu'en championnat, ça a été un bordel. Vous avez viré le coach. Il y a des joueurs qui voulaient partir. Ils sont pas partis. Ça se dispute. On va le vendre. On va pas le vendre. En management, il y en a un qui arrête. Il y en a un qu'on met de côté. Il y en a un qui a un souci. On est fatigué.
Ouais.
Laissez le championnat parce que je pense pas que Bruges peut encore aller le chercher. Juste aussi quand tu regardes les autres équipes, Anvers, Union, Anderlecht, c'est costaud. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller prendre la Conference League. Je vais pas dire que le chemin il est facile du tout. Mais il y a moyen. Et franchement, pour un club belge, ce serait quand même incroyable de le faire. Mmh. Et c'est un discours qu'on a souvent, mais je vais le dire aussi pour Bruges. Ils ont un bon noyau, hein. Ils ont un très bon noyau. Est-ce que c'était le bon noyau pour ce coach? Ça, c'est une autre histoire. Mais ils ont un bon noyau, essayez en Europe, il y a de la qualité, allez-y, tu vois.
Ouais, Ronny Deyla qui laissait peut-être un peu trop faire, un peu trop filer, un peu trop la théorie du copinage. D'ailleurs, Kasper Nielsen ne venait pas le voir partir, il l'avait dit, on est derrière le coach, on pense que c'est notre responsabilité, la défaite face à Saint-Tron au Steinveld. Donc, on peut aussi se poser des questions sur la véritable mentalité de certains joueurs. Ont-ils véritablement la grinta? Est-ce qu'il y a certains matchs sur lesquels ils n'ont pas envie de se faire mal, comme on dit? Et puis on se pose aussi la question, est-ce que justement cette Conference League va permettre à certains joueurs de se dévoiler ou je dirais même de pour une fois jouer à 100%. Je pense notamment à Skovolsen qui, quand il est en Europe, je peux le dire parce que j'ai commenté notamment ses matchs face au Beşiktaş et face à Bodø/Glimt, est totalement, mais totalement un autre joueur. Ce n'est pas le même individu en Europe que en championnat. Et c'est pareil, par exemple, avec Antonio Nusa. On peut parler notamment de Kasper Nielsen aussi, qui a fait des belles performances en Europe, même s'il a fait une petite erreur face à Beşiktaş, ça je ne l'oublie pas. Voilà. Est-ce que il y a des joueurs à Bruges qui jouent à la carte? Et ça, ça peut quelque part profiter aussi, comme le disait Alex, à un titre éventuellement en Europe.
Ouais, clairement. Je pense que c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a des joueurs, on a l'impression qu'ils sont pas motivés, enfin, plus motivés dans certaines compétitions que d'autres. Après, pour moi, pour revenir à ta question initiale, je pense pas qu'ils doivent tout concentrer sur la Conference League, parce qu'au final, déjà, ça va être très compliqué, parce que s'ils passent ce tour-ci, après, je pense qu'ils vont jouer contre la Fiorentina et tu commentes la Serie A, tu sais que la Fiorentina, ça va pas être facile pour Bruges,
tout
ça va
fait
être compliqué,
avec toi.
Donc je suis pas sûr. Et même s'ils gagnent la Conference League, ça offre quoi? Un ticket en Europa League. Et ici, en championnat, dans les playoffs, je pense qu'ils peuvent finir 3 ou 4e, et ça offre aussi des tickets en Europa League, si je dis pas de bêtises.
Qualification, tu vas en préliminaire, en barrage.
Voilà, donc quoi qu'il arrive, c'est plus ou moins... Je pense qu'ils doivent pas tout miser sur la Conference League, parce que en championnat, tu peux avoir plus ou moins le même ticket. Et donc c'est important quand même...
Tu t'évites quand même une préparation estivale un peu tronquée, hein.
Oui, mais c'est
pas la même chose.
C'est même beaucoup plus compliqué que finir 3-4 en Belgique, tu vois. Que ici, pour vraiment, ils ont le même nombre de points que l'Antwerp, si j'ai pas de petit sou, un point de retard. Donc, en soi.
Le même nombre de points, t'as raison. Seulement, ils ont l'avantage au niveau des différences de but.
C'est ça, il y a un nouveau coach qui va apporter de nouvelles choses. Peut-être moyen de au moins finir troisième, tu vois.
Mais après, parce que là, on parle de la mentalité du club, de ce qu'ils doivent avoir. Mais si tu poses la question, est-ce que Skovolsen, Nusa, bon, Thiago, lui, il a déjà eu son transfert, mais est-ce que ces 3-4 joueurs-là qui savent que, hein, il y a un transfert et quelques millions à, qui les attendent, est-ce que tu penses qu'eux vont se donner à fond le jeudi en quart de finale ou en demi-finale de la Conference League ou le dimanche contre le Cercle? On connaît la réponse, ouais, tu vois.
Quel match il y a le plus de scouts?
Ouais, mais tu peux mettre, par exemple, Skovolsen.
Quart de finale de conférence
match face au Cercle? Tu peux mettre Skovolsen en quart de finale de la Conference League et le week-end, tu mets quelqu'un qui a envie de se montrer, qui joue moins, par exemple, à Skoras, par exemple, qui joue pas souvent, ou d'autres. Le noyau, comme tu l'as dit, est tellement large, est tellement fort, que tu peux mettre un autre joueur qui a moins de temps de jeu, qui aura envie de se montrer, qui aura peut-être envie de décrocher un transfert et qui fera le job. Parce que t'as Skovolsen que t'es obligé de le faire jouer, toi. Tu le laisses reposer le week-end parce que le jeudi t'as un gros match. C'est une excuse valable, en plus, de manière générale. Et tu mets un autre joueur qui va vouloir te faire la différence, toi.
Bah, je pense qu'un Zinckernagel peut très bien faire le match, un match intéressant, notamment en Jupiler Pro League. Voilà. Hein. Ça, c'est pas un problème. Effectivement, Skovolsen aura plus tendance à être performant en Europe. Ça peut être complémentaire. Voilà. Ceci dit, j'ai quand même tendance à penser qu'au niveau de l'énergie dans laquelle Nicky Hayen va reprendre l'équipe, il faudra fixer un objectif. Il faudra que les joueurs puissent être dynamisés ou redynamisés par une énergie qui va leur permettre de se reconcentrer au moins sur la fin de saison. Bien qu'il y a, on sent vraiment à Bruges une fin de cycle. Ce groupe est à bout. Ils arrivent au bout de quelque chose. Il y a vraiment un besoin de faire sortir beaucoup de joueurs. Et il y a certains joueurs qui ne trouvent pas de club ou qui n'ont pas envie de partir parce qu'ils sont dans un confort total dans leur club actuel.
Ouais, mais après, c'est normal. Je pense que tout fonctionne en cycle, en fait. Ouais. Et je pense que c'est ça qu'on doit pas oublier. Je pense que tout fonctionne en cycle et t'as toujours des équipes qui ont de belles années. Puis il y a une année ou deux années qui vont être moindres et puis ils vont revenir. Je pense que le plus important pour le club, c'est de faire en sorte que, en fait, le groupe, c'est un problème qu'ils vont résoudre. Tu vois? S'il faut ramener du nouveau, ils vont ramener du nouveau. S'il faut un coach, ils vont trouver un coach. Je pense que c'est surtout en interne qu'ils doivent essayer de faire en sorte que le club reste sain. Tu vois, que le club reste en bonne santé et l'équipe, le noyau, le coach, ça, tu trouveras toujours des solutions, tu vois. Mais s'ils gardent le club sain, il n'y aura pas de souci. Et je pense que, parce que beaucoup de personnes se sont posé la question, est-ce qu'il fallait virer le coach, oui ou non? Mais dans ce truc de vouloir redynamiser le groupe, ben maintenant, c'est play-off, Coupe d'Europe. Ouais, tout le monde aura faim. Parce que là, on est en train de dire, ouais, peut-être, et même moi, hein, je suis en train de réfléchir. Skovolsen voudra jouer tous les matchs. Ouais. C'est les playoffs, il lui reste quoi, 10 matchs, 12 matchs, 14 matchs peut-être. Il sait que maintenant tous les scouts sont là, tout le monde sait que il y a des matchs en jeu, tout le monde va venir me voir jouer. Il va vouloir planter un but chaque semaine, il va vouloir mettre un assist chaque semaine. Donc je pense que le groupe sera quand même.
Là, au maximum, c'est 15 matchs. Avec la fameuse finale, bah ouais. Je pense au 1er juin ou au 2 ou au 3 juin. Enfin, c'est un samedi de mémoire à Athènes. Effectivement, dans le stade de l'AEK, d'ailleurs. Mmh. C'est intéressant parce que je crois que l'Antwerp avait joué face à l'AEK à Athènes, notamment en Coupe d'Europe. Et donc, du coup, ils connaissent assez bien les équipes belges. Mais on verra pour le club de Bruges. Wait and see. Wait and see, évidemment, c'est votre rubrique transfert. On va parler aujourd'hui de Johan Bakayoko. On va parler également d'Aboubakari Koïta et il y aura du William Balikwisha. Mais avant de se laisser, on n'oublie pas votre séquence découverte préférée. C'est parti pour le crack ou la fraude. Xavier, qui veux-tu mettre en avant ou descendre cette semaine?
Je vais prendre un crack et je vais pas prendre un belge ni rien. J'ai envie d'aller en Serie A. Je sais que t'aimes bien, que tu commentes souvent en Serie A.
Ah, vraiment plaisir.
J'ai envie de mettre en avant le coach de la Roma actuelle, Daniele De Rossi. Okay. Il fait un travail énorme depuis qu'il est arrivé à la Roma. Je crois que c'est 9 matchs de Serie A. 7 victoires, 1 nul, 1 défaite. Mmh. Et la défaite, c'était contre l'Inter, donc on peut lui pardonner. C'est 2,85 buts marqués par match. C'est la deuxième meilleure équipe en 2024. Alors que la Roma était nulle part. On a ramené un coach qui avait, ok, il a fait, je crois que j'avoue, 18 ans à la Roma, il a l'ADN de la Roma et tout ça, mais en tant que coach, ça ne l'aurait clairement pas. Je crois qu'il a eu, oh, il a juste traîné à la Spal, je pense, et il était adjoint ou autre à l'Euro pour l'Italie. Et de manière générale, on a ramené un entraîneur qui fait le job. Et au final, on ne le destinait pas forcément à être bon. Il a juste un contrat jusqu'à fin d'année.
Ouais.
À ma vie, il va être prolongé, vu les résultats.
Très certainement, ouais.
Voilà. Et donc, on va voir, il va le mettre un petit peu en avant, parce qu'au final, on n'en parle pas et il fait de l'excellent boulot.
Alex, au lieu de tuer les plantes.
Ouais, j'ai...
Dis-moi, c'est quoi ton crack ou ta fraude?
Ben écoute,
t'as choisi quoi? Tu préfères mettre en avant quelqu'un ou il y a un petit coup de gueule que t'as envie de passer?
Non, moi j'aime mettre en avant. J'ai beaucoup de coups de gueule de près, hein.
Ah, mais d'abord en avant, on verra pour ton coup de gueule après.
Mais je me suis dit, j'allais quand même mettre en avant. Et c'est peut-être quelqu'un, c'est clair, hein, mais c'est juste pour sa saison en fait, c'est Phil Foden.
Phil Foden.
J'ai pas encore assez parlé de Phil Foden cette année. Quand j'ai vu le truc de prépare quelqu'un, je me suis dit j'ai parlé de Phil Foden, mais je voulais faire un double. Phil Foden et Kobbie Mainoo, en fait.
Ah, l'auteur de Manchester United. Ce magnifique dribble exceptionnel, ouais, face à Liverpool en FA Cup. Tu, ouais, parles de cet homme.
Ouais.
Ah, et oui, en fait, effectivement.
J'ai pris deux cracks parce que j'ai envie de les prendre et je profite, hein, parce que je suis pas là chaque semaine. Pour la même raison, c'est que j'ai retrouvé deux joueurs que je regarde jouer 90 minutes et je me dis, en fait, ils dépassent juste les autres. C'est juste aussi simple que ça. J'ai pas envie de parler de sa passe, de son... C'est un gars, il prend la balle, comme à la plaine de jeu, en fait. Comme à l'école, quand j'étais en quatrième primaire, il prend la balle, il regarde l'adversaire. Les deux, hein. Il dit, je sais que je suis meilleur que toi, je vais juste te dépasser. Et c'est tellement un plaisir à voir ce genre de joueur. Et j'ai l'impression qu'on... Oui, mais c'est... j'ai l'impression qu'on les a un peu perdus, ouais, les années précédentes, tu vois, dans le football qui est devenu tactique, et 4-3-3, 4-4-2, gegenpressing, faut courir, faut transpirer, tout ça. Et j'ai retrouvé deux jeunes qui sont là en mode, donne-moi la balle, toi, viens, laisse-moi tranquille. Toi, viens, laisse-moi tranquille. Tu veux un assist, tu veux un but, t'as besoin de quelque chose, tu veux un sandwich, une boisson. C'est incroyable à voir, tu vois. Et de se dire que ces deux jouent pour le même pays et vont jouer ensemble pendant 10, 15 ans.
Ouais.
C'est incroyable. Et je pense que le foot anglais est en train de vivre une renaissance incroyable. Et c'était deux joueurs que je voulais mettre en avant qui sont...
C'est mon favori pour l'Euro. Mon favori pour le bro, on se retrouvera pour en parler, moi, Alex, chauds. Mais ils sont pour moi tout droit destinés à aller chercher la coupe en Allemagne. En tout cas, je les vois, mais pour moi, c'est clair comme une maison que ce sera eux, quoi. Même si, bien sûr, il y aura la France et on en parlera cet été avec, on aura tout le temps pour faire tous les débats, etc. Mais quelle équipe, effectivement, Phil Foden est en train de tout simplement prendre Manchester City sur son dos, qui parfois a des difficultés offensives, dont on voit certains joueurs qui sont soit blessés à l'image de Kevin De Bruyne, soit pas au niveau, ou en tout cas en difficulté à l'image de Jérémy Doku. Il fait la différence.
Non, c'est incroyable.
Il est là et il porte en fait le poids offensif, même quand ça va pas pour un Erling Haaland, même quand ça va pas pour un Julian Alvarez, eh bien il y a chaque fois Phil Foden, le petit dribble, la petite passe, le côté décisif qui est là pour être plus fort, quoi. Donc bravo pour ce crack, parce que franchement j'aurais pu le prendre et je trouve ça hyper hyper intéressant. Est-ce que t'as un coup de gueule? T'as dit que t'en as des nombreux. Je vais t'offrir aussi un coup de gueule. Si
le coup de gueule, c'est le même coup de gueule que chaque Congolais qui va passer dans ton équipe, dans ton émission. Ah. C'est la sélection.
Ah.
C'est, on a maintenant
pourtant,
deux.
C'est pas mal ce qui s'est passé en sélection.
Oui, mais on a maintenant.
De Sabri, il est sympa. Ouais. L'équipe, elle est bien.
Moi, j'ai pas besoin de sympa, moi.
Lui, c'est Bayern Munich, les méchants.
Oui,
les méchants.
Oui. Deutsche Qualität, oui. EPL. Ça, c'est mon. Non, il y a maintenant deux semaines de foot international. Toutes les sélections ont des matchs de prévu, à part le Congo. Le Congo n'a pas de match, il n'y a pas de rassemblement. On vient de faire une super CAN, il y a de l'argent qui est entré. La fédération a récolté des millions et on n'arrive pas à organiser en fait un rassemblement, on n'arrive pas à organiser des matchs amicaux, il y a des soucis et c'est tellement fatigant parce qu'on a enfin une coupe ou une CAN où on a retrouvé espoir, on a retrouvé un groupe, on a retrouvé du talent, de l'équipe. En plus c'est bien nous, en plus de il y a l'ambiance, ouais. Il y a la ferveur, on s'est amusé comme des fous, on était super investis. Et de maintenant, même pas trois mois après, de nouveau avoir des bêtises comme ça, c'est fatigant, tu vois. Donc on espère juste tous de tout cœur d'enfin avoir du sérieux et d'enfin pouvoir aller exploiter le talent qu'a ce pays, puisque le Congo est tellement... On le dit tous en interne, et moi j'ose le dire à la caméra, pourquoi le Congo ne peut pas être le Brésil ?
Tu sais quoi ? C'est magnifique. On va se laisser sur cette phrase. Je pense que c'est la plus belle phrase de fin qu'on pouvait faire. Alex, merci beaucoup d'avoir été présent dans le
Clubhouse. Merci à vous.
T'as été un amour. C'est tu reviens cool. Quand tu veux. T'habites en plus de ça à 2 minutes, donc c'est assez facile du studio. T'es un des invités qui habite le plus près. Tu joues un derby là. Quand t'arrives, t'es quasiment un derby de la rue là. C'est un truc de fou. Merci infiniment d'avoir
merci
été présent.
Vous.
N'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à toujours aller suivre Alex dans ses réseaux sociaux, ses aventures, Coolcast, tout ce qu'il fait. On l'a dit là. Pro League, etc. Il a plein de choses. C'est un entrepreneur, aussi un homme d'affaires avec pas mal d'idées. Donc voilà, on se soutient entre nous et puis c'est important d'envoyer la force. Xavier, merci beaucoup.
Avec plaisir.
On va se retrouver très rapidement, mais pas la semaine prochaine parce que vous le savez, on fait une petite pause pendant la trêve internationale. On va en profiter pour aller soigner un petit peu cette gorge. On va prendre un peu de miel, ça va aller. Le 2 avril prochain, on sera de retour évidemment avec le début des playoffs, évidemment. Et puis on fera aussi un petit crochet par le petit break international. Que va-t-il se passer avec nos Diables Rouges, avec le match face à l'Irlande et l'Angleterre? Eh bien ça, je le dis souvent, mais je vais le répéter, c'est wait and see. Allez, à très vite, dans le Clubhouse. Ciao, ciao.